Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Campus pour une heure de politique avec l'émission Panthère Rouge, présentée par Lise et Claire au micro et Antoine aux manettes. Qu'est-ce que le néolibéralisme ? C'est la question que se sont posées vendredi dernier les personnes venues au café Lecture Les Augustes. Qu'est-ce que le terme néolibéralisme signifie ou cache ? La société Louise Michel organisait donc cette séance de réflexion, ouverte à tous ceux qui s'interrogent sur ce monde. Et ça fait du bien de réfléchir un peu, ça change des gesticulations qu'on a eues autour du volcan islandais, hein, ce satané volcan qui empêcha le meilleur candidat de la droite désunie pour 2012 et encore président d'assister aux funérailles de son homologue polonais à Cracovie. Satané volcan qui a retardé des hommes d'affaires attendus pour signer des contrats, des traders qui risquent d'être remplacés par des concurrents. Satané volcan qui a fait perdre des sommes énormes aux compagnies aériennes qui quémandent elle aussi, que l'État vienne les renflouer. Que d'absurdité qui voudrait nous faire oublier le vrai désarroi des hommes en ce moment. C'est un peu cynique de s'apitoyer sur des vacanciers coincés quand on sait par exemple les conditions de vie des Haïtiens sans abri, traumatisés, sans alimentation digne de ce nom. Que d'absurdité qui voudrait nous faire oublier l'existence des résistances contre la dictature du fric. Or, les résistances existent. Je pense par exemple à la protestation grandissante contre l'accaparement des terres et contre la généralisation de la culture OGM à l'Afrique. On en reparlera. Je pense à la résistance de la population grecque contre un plan d'étranglement par le FMI et les banques, à la grève chez Nike au Vietnam, au refus de voir passer au laminoir de Sarkozy et par isolé retraite. Des résistances ici et là, mais comme tout se tient, ces petites secousses sociales ne sont peut-être que les prémices d'un volcan social qui va bientôt exploser. Au sommaire aujourd'hui, nous allons voir une composante essentielle de la domination capitaliste contemporaine de par le monde. Il s'agit de l'armée industrielle de réserve, c'est-à-dire en gros une réserve de chômeurs maintenue dans la plus grande détresse. Et puis on parlera de culture et d'art, car l'austérité ce n'est pas seulement s'en prendre retraite, c'est s'en prendre à tout, et la culture est en ligne de mire. Yeah.
Provoke emotions when I'm boasting and bragging. Just imagine gun clapping, linguistic assassin. About to shake the world up, slam it to the flow bus. You heard of us, real niggas, we blow the world up. Flip off the planet, take it for granted when I manage. With that home team advantage, automatic rhyme bandit. About to hand it, cause you cram to understand it when I land it. Open handed, I'm a transatlantic slave. With that old black magic, got the habit from the demo to the master. Some brothers try to strike, but like the fire of disaster. I'm the chainsaw massacre, rain, raw acid dust. Downshift, pump your brakes, ease off the clutch. We fuck it up when we can duck, load your pistol up. Put this verbal dick in your mouth until I bust a nut. And let this jam tell you who the fuck I am. Original black man from the Bilali, Sudan. It's like that, y'all. So go ahead and get up. This is the future sound. Without further ado,
yeah, you don't see us, but we see you.
Either you're here to teach or you're here to be taught. If you don't plan to get away, then you plan to get caught. I was born to win,
that's why I run.
Don't walk. South Central MC, what the fuck you thought?
I set my first verse up, similar to a stakeout. The minute that they break out, they send Jake out. But I'm super laxative and I don't need no practice, kid. You probably wonder what track this is.
So carry on with that twisted ass street rap. I ride for peace, but I will contradict that. And bitch slap any rapper that act like you really want it. I'ma hand him his hat.
So act like you want it, but don't get loud. And you haven't seen the style this vivid in a while.
I rebel cause I'm a rebel. My education and rhythm is on a higher level. Smash to the dust,
it's
settle
like that, y'all. So go ahead and get up. This is the future sound.
Without further ado,
yeah, you don't see us, but we see you.
Yeah.
Yes, 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 y'all. Mic test, test, y'all. Freestyle lyrics being thrown straight at y'all. And we hype so, and we might just float from the get-go.
Hey, yo, Soup, let them know
I'm one of the last cats.
Right.
Putting a favor back in the rap and make your sunroof straight to your cap. Now the original black, now watch how the herds react. I play the block where I learn the rap. Ain't nothing to it, I keep the wordplay fluid.
to run through it like the Emperor Jones. The inventor of poems, a Lamb Rick's outstanding pitch.
What?
Regardless if you're feeling my shit, yo, I stay prime.
What?
And plus I'm never outdated in time. I break atoms from the way that I rhyme. Now I created the line with no miscues, fake no moves. So here's the rhyme I couldn't wait to use. I represent and put the pressure on your local event, and drop heavy when the vocal commence to hit you with the hints. From the colonial prince, the master of the ceremonial, it's like that, y'all.
So go ahead and get up. This is the future sound.
Without further ado,
yeah, you don't see us, but we see this.
Yes, 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 y'all. Like test, test, y'all. Freestyle lyrics being thrown straight at y'all. And we hype so, and we might just flow from the get-go.
Vous écoutez Radio Campus, émission Panthère Rouge. On retrouve Claire. Bonsoir Claire.
Bonsoir Lise.
Alors toi, tu es une sorte de vétérante de l'armée industrielle de réserve. Je veux dire, tu as eu des périodes chez Pôle emploi. Et aujourd'hui, tu nous parles de cette armée de l'ombre, l'armée de réserve industrielle.
Mmh. Oui, c'est normal, ça arrive. C'est quelque chose qui arrive souvent quand on est jeune de nos jours, d'être précaire et d'aller voir Pôle emploi. Donc j'avais envie de parler de ça parce que, comme vous le savez, année 2009, c'était l'année de la crise économique, année où le nombre de chômeurs a terriblement augmenté. Donc là, je parle de ceux qui touchent le chômage et puis ceux qui ne touchent plus rien aussi. Et j'ai remarqué que voilà, le gouvernement ne fait rien au niveau de l'emploi et n'essaye pas de créer plus d'emplois. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur cette question des chômeurs ou donc, comme Marx l'appelait, l'armée industrielle de réserve. Et tout d'abord, je vais repartir sur la définition, non pas du chômeur, mais de ce qu'on appelle un prolétaire. Donc ce sont des travailleurs qui n'ont à vendre que leur force de travail. Cette force de travail se présente sous le système capitaliste comme toute autre marchandise, donc comme une pomme ou un ordinateur.
Et en fait, la force de travail, pour être plus explicite, c'est les gens qui cherchent à être salariés quelque part. Quoi.
Voilà, oui, voilà. C'est ceux qui... Oui, c'est...
Par opposition à ceux qui peuvent, je sais pas, qui sont artisans et qui ont à la fois... qui peuvent produire, quoi. Qui cherchent pas à être salariés.
Voilà, c'est ceux qui n'ont que leurs mains à vendre, en fait. Enfin, leurs mains et leur cerveau à vendre.
En fait, je dis ça, mes artisans aussi, mais bon.
donc, cette force de travail dans le système capitaliste, comme toute autre marchandise, se vend et est soumise aux lois du marché. Donc, dans une société capitaliste mondialisée, la concurrence entre les travailleurs se fait à l'échelle mondiale. Donc il y a plusieurs types de capitalisme. Il y a le capitalisme non mobile, donc comme le bâtiment ou l'agriculture.
Le capital.
Le capitalisme.
Non, d'accord.
capitalisme non mobile, donc comme le bâtiment ou l'agriculture, où la concurrence entre les travailleurs se fait par l'importation de tel ou tel type de main-d'œuvre à un moment donné. Pour avoir une main-d'œuvre particulièrement peu chère, on fait venir une catégorie précise de travailleurs nécessaires à un secteur déterminé, donc qui peuvent être sans papier, par exemple, dans le bâtiment, on va souvent, et qu'on peut envoyer au pays une fois que le chantier ou la saison est finie. Et ça, c'est pour le capitalisme non mobile, qui est une petite partie de l'économie face au capitalisme mobile, celui des grands groupes de production manufacturière, ou la distribution concentrée. Donc là, je veux parler des entreprises qui délocalisent afin de trouver une main-d'œuvre qualifiée beaucoup moins chère et qui vendent quand même leurs produits là où ils existaient au départ puisqu'ils y possèdent encore un marché. Donc là, par exemple, c'est Danone, Michelin qui vont produire en Chine, en Thaïlande, en Asie pour avoir une main-d'œuvre peu chère. Et donc là, on comprend bien la concurrence qu'il y a entre les travailleurs français et les travailleurs chinois. L'évolution naturelle du capitalisme est une mise en compétition de l'ensemble des travailleurs. Et là, je vais citer Marx, une citation qui a plus d'un siècle et demi. Il ne s'agit pas seulement de réduire les salaires anglais au niveau du continent, mais de faire descendre dans un avenir plus ou moins prochain le niveau européen au niveau chinois. Donc l'idée, c'est que le prix des travailleurs va se régulariser partout dans le monde. Donc D'ailleurs, la question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui notre salaire n'est pas encore aussi bas que ceux des Mingong chinois. Donc, il faut comprendre qu'il y a un rapport de force qui existe entre les travailleurs et les patrons, qui fait que quand les travailleurs sont unis, les patrons ne peuvent rien faire contre eux. C'est un rapport de force. Et donc, il y a eu...
C'est battu pour ça, en fait. C'est pas naturel, quoi.
C'est pas naturel. Au cours du dernier siècle, en 67, 68, 74, 75, partout en Europe et en fait dans pas mal de pays dans le monde, il y a eu des révoltes et il y a eu des avancées sociales, des acquis sociaux, comme les congés payés, les retraites, 38 heures. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu... ces acquis
remis en cause,
cause énormément et on sent qu'on tend vers le modèle chinois. Donc tout d'abord ça allait assez doucement parce qu'il fallait faire passer la pilule et puis je pense qu'actuellement on vit une véritable révolution conservatrice qui ramène à un rapport très favorable au capital. Acquis sociaux plus la marchandisation de tout, d'absolument tout, culture, santé, éducation, voilà. Donc c'est un peu les bases que j'avais envie de revenir dessus. Et c'est là où je reviens sur la crise économique qui a éclaté en 2009 et qui dure encore. Et où je me questionne, enfin, où la question c'est pourquoi le gouvernement qui a déboursé des milliards d'euros pour sauver les banques n'a pas levé le petit doigt pour créer de l'emploi. Donc... après, je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais je me rappelle quand Vanneuf...
T'es vieille, Claire.
Vanneuf, enfin, dans mes cours d'histoire géo, on m'avait appris qu'en Vanneuf, le gouvernement américain avait créé des grands chantiers pour créer de l'emploi, pour relancer l'économie. Et que, bon, bah là, je pense que quand on est capable de débourser des millions d'euros pour sauver des banques, on peut débourser des millions d'euros pour faire des chantiers. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, là, rien du tout. Et en fait, la raison, c'est que finalement, ce nombre de chômeurs qui augmente, eh ben, ça les embête pas tant que ça, vu qu'ils font rien contre ça. Et en fait, ça les embête pas, parce que en fait, ça les arrange, parce que plus il y a de chômeurs, plus donc l'armée industrielle de réserve se grandit, plus il y a des gens qui sont là à vouloir du travail et qui n'ont pas, et plus la compétition entre les travailleurs augmente. Et dans ces conditions, les travailleurs ne peuvent mettre aucune pression, enfin, ne peuvent pas mettre de pression contre leur patron. À partir du moment où il y a une compétition entre eux, où ils ne sont pas unis, ils ne peuvent pas mettre de pression sur les patrons. Donc, si ton boulot ne te plaît pas, tu peux râler, parce que de toute manière, il y a 10% de la population qui est au chômage qui est là pour te remplacer. Et ça, c'est génial. Hein. Enfin, là, on a vu, c'était ton exemple sur la SNCF.
Ouais, en fait, où la direction de la SNCF disait, alors je ne sais pas, peut-être qu'il s'avançait un peu, c'était plus une façon de se mettre en valeur qu'autre chose, quoi. Mais il disait que de toute façon, même quand il y avait 30% des travailleurs qui étaient en grève, ça ne les empêchait pas d'assurer un service normal parce qu'ils embauchaient des intérimaires ou ils faisaient appel à des entreprises de bus, voilà. Et ils pouvaient assurer un service normal, quoi.
Voilà, ça, c'est l'exemple typique de comment on détruit un mouvement en utilisant la compétition entre les travailleurs et voilà.
Et donc en fait la solution ça serait d'avoir des mouvements sociaux mondiaux finalement, si tu veux l'union des travailleurs et si on est en compétition avec les petits chinois, il faudrait avoir des syndicats
travailleurs du monde entier, unissez-vous. Donc je voulais quand même revenir sur cette crise et donc je voulais insister que cette crise n'a pas été douloureuse pour tout le monde, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. En un an, le rapport de force entre le patronat et les travailleurs est allé du côté des travailleurs. Moi, j'ai vu des gens qui sont cadres, qui ont accepté des boulots de merde parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le choix. Et voilà, donc c'est pas seulement dans les milieux ouvriers, c'est tout le monde. Et oui, enfin, je pense que travailleurs de tous les pays, unissez-vous, c'est une très bonne conclusion.
Juste, est-ce que tu pourrais citer un peu tes sources ?
Donc, en fait, je me suis inspirée d'un article qui date de 2006, donc de avant la crise économique, de François Chénet, et c'est de la revue Carré Rouge. C'est une très bonne revue que je vous conseille, et qui s'appelle « La mondialisation de l'armée industrielle de réserve ». Et c'est un article qui est pas mal parce qu'il parle aussi du capitalisme financier, parce que là, je ne me suis pas trop attardée là-dessus, mais comment, justement, le capitalisme financier est un capitalisme qui se développe de plus en plus, qui donne une abstraction totale par rapport à tel ou tel pays, et où on comprend qu'il faut arrêter de voir... pour son pays, quoi. C'est les multinationales, elles sont françaises, américaines ou chinoises. C'est pareil, quoi. Faut pas en vouloir aux Chinois, faut pas en vouloir. Enfin, faut pas fermer les frontières ou quoi que ce soit. Le problème ne sera pas résolu en foutant les immigrés dehors. Le problème, c'est à qui appartient les moyens de production, à qui appartient l'argent, les banques centrales. C'est à ça qu'il faut s'attaquer, quoi. C'est pas du tout aux immigrés ou quoi que ce soit.
Merci, Claire.
Sur Radio Campus, l'émission Panthère Rouge jusqu'à 19h, que l'on peut écouter également sur le blog de l'émission audioblog.arteradio.com/Panthère Rouge. Alors maintenant, on va parler de Gérard Mordilla avec un livre qu'il a écrit qui s'appelle Les Vivants et des Morts.
Et ça sera dans une rubrique Culture et Révolution. Alors la rubrique Culture et Révolution qu'on avait créée, on s'était dit que c'était bien parce que ça nous permettait de parler d'un peu tout ce qui nous plaisait en art, même si de premier abord ce n'était pas révolutionnaire, mais juste parce qu'on trouvait que on pouvait imaginer, enfin, on trouve en fait que pour imaginer le monde à construire, où l'on serait émancipé de toute oppression, il faut le voir dans un contexte d'ouverture intellectuelle à l'art, que l'art est une composante à notre réflexion révolutionnaire. Et donc là, en fait, aujourd'hui, on va commencer par s'éloigner du sujet purement politique, parce que aujourd'hui, donc, l'objet de la chronique, c'est le contraire. C'est la politique qui se mêle à l'art. C'est quand la politique, la politique actuelle de nos dirigeants et de leurs conseillers a décidé de faire la peau à l'art et à la culture. ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans mon intro. Un peu comme tout, en fait, un peu comme les retraites, tout, en fait, l'art, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très rentable, alors finalement, on va le zigouiller. Et donc, là, il y a un mouvement qui est en train de se constituer, là, des syndicats d'artistes, et ils contestent la politique en matière d'art, premièrement parce qu'il y a eu des réformes des collectivités territoriales qui retirent aux départements et aux régions la possibilité d'intervenir librement dans le domaine de l'art et de la culture qu'ils financent aujourd'hui autant que l'État. Donc d'ores et déjà, la suppression de la taxe professionnelle va restreindre le subventionnement de la culture par les départements et les régions, puisqu'ils seront obligés de financer d'abord leurs compétences générales. Donc avant même l'application de la réforme, des départements grévés par des charges nouvelles non compensées par l'État sont en train de retirer près de 20% des sommes attribuées à l'art et à la culture. À court terme, c'est donc la disparition de nombreux festivals, de lieux d'art et de spectacles et compagnies. Alors deuxièmement, il y a la révision générale des politiques publiques qui affaiblit donc le ministère de la Culture, remettant en question ses missions essentielles de service public. Elle vise, sous couvert de modernité et d'efficacité, à restreindre fortement les capacités artistiques de toutes les structures culturelles. Troisièmement, donc le ministère des Finances veut retirer 30 millions d'euros au seul secteur de la création dès 2011. Alors toutes ces attaques et ces restrictions budgétaires ont pour conséquence, bien sûr, une précarité grandissante pour un grand nombre de métiers du spectacle et de la culture qui sont déjà hyper précaires. Et puis enfin, le Conseil de la création artistique prétend exercer les prérogatives de la direction de la création artistique du ministère de la Culture. Il contient en germe une réforme qui, à terme, désengagerait le ministère dans le soutien aux créateurs et cautionne dès aujourd'hui la politique de démantèlement de l'art et de la culture. Donc c'est pour toutes ces raisons que des travailleurs de la culture et du spectacle ont commencé un mouvement de contestation. Ils étaient plus de 4000 pour la journée d'action le 29 mars dernier. Et puis ils poursuivent le mouvement, notamment avec la journée du 6 mai. Et ce mouvement est suivi également en province et notamment à Clermont-Ferrand. En fait, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais les gens se réunissent et discutent de ça. Voilà, donc le 6 mars... Ça sera une journée riche en actions, parce que, outre cet aspect, il y a un débat organisé par le cinéma Le Rio. Ils organisent une conférence débat autour du thème « L'avenir du cinéma indépendant ». Et c'est ceci donc en présence de Gérard Mandilla que tu présentais tout à l'heure, Claire. Rien que ça.
Gérard Mandilla, on l'aime beaucoup.
Donc Gérard Mandilla, c'est un écrivain, un réalisateur. Et donc ses deux derniers romans sont « Notre part des ténèbres » et « Les vivants et les morts ». Et justement, en fait, ce dernier ouvrage a été adapté au cinéma, sous forme de deux films qui seront présentés...
sur France 2, je crois.
Voilà, cette année, deux films d'une heure. Pour nous, exceptionnellement, à Clermont-Ferrand, on pourra voir ces films le jeudi...
Pour la semaine, pour l'ouverture du festival du film engagé, je crois.
Voilà, c'est ça. Donc, je récapitule. Alors, si vous allez au Rio à 14h, vous pouvez participer à un débat sur l'avenir du cinéma indépendant. Donc, c'est intéressant en soi, mais c'est aussi intéressant pour les salles qui font du cinéma indépendant, comme le Rio, qui est un peu mise à l'épreuve en ce moment. Et puis, le soir, il faudra aller à Meusels, où commence le festival du film engagé. Voilà, c'est ça, c'est la quatrième édition. Il y aura plus d'une dizaine de films qui seront suivis de débats, toujours. Et donc, c'est projeté les 6, 7 et 8 mai. C'est à prix libre. Donc, si vous êtes très riche, vous pouvez donner beaucoup d'argent. Et si vous êtes très pauvre, vous pouvez quand même aller voir des films. C'est trop bien. Alors, je vais vous donner quelques exemples de films. Donc, le jeudi, c'est donc Les vivants et les morts par le réalisateur Gérard Mandilla. Vendredi, il y a Coup de fouet sur le climat. Et il y aura un débat ensuite animé par l'association Anis Étoilée. Samedi, il y a le film Jérusalem, The East Side Story. J'ai pas le nom du réalisateur, mais c'est un débat animé par l'association France-Palestine. Il y aura aussi un film qui s'appelle Cheminot de Luc Joulet et Sébastien Jousse. Un autre qui s'appelle Cameroun, Autopsie d'une indépendance, et qui sera animé par l'association Survie. Et puis dimanche, je précise juste qu'il y aura une sélection de Kino. Les films... Tu peux me présenter vite fait Kino, toi ou...
Kino, c'est génial. C'est en fait, c'est Kino, c'est un, en général, c'est un mouvement qui vient du Québec, et donc c'est du film fait à la maison, enfin du court-métrage fait à la maison. Et l'idée, c'est on peut faire avec rien, on peut faire mieux avec peu, mais il faut le faire maintenant. Et
c'est un bon résumé.
C'est un bon résumé.
Voilà. Donc le festival de films engagés, ça se passe à Moselle ou à Courpierre, donc c'est vraiment à côté de Clermont, c'est juste derrière Cournon. Le programme, donc, il sera mis sur notre blog, il est disponible sur le site de l'Université Populaire et Citoyenne, upc63.ouvaton.org. Et donc voilà, ce serait dommage de ne pas en profiter, c'est prix libre, je vous rappelle. Et puis vous verrez des stars comme Mordia. Donc voilà, j'espère que tout le monde est convaincu, et si c'est pas le cas, et ben je vous propose d'écouter Mordia, interviewé par Olivier Barrault sur France 3 le 16 mars 2005.
Non, elle est mort, Gérard Mordia, chez Calman Lévy. C'est un roman qui se passe aujourd'hui, et nous sommes au sein de la Causse, une entreprise dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est en crise.
Oui, ben la Causse, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, va fermer. Il y a un plan social, et à partir de ce plan social, ça va être une sorte de cataclysme qui va se passer d'abord dans l'entreprise, puis dans la ville où ça se passe, à Rossel, dans l'Est, et puis dans le département, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite histoire qui va devenir de la grande histoire.
Le livre est écrit en bref chapitre, et au premier d'entre eux, Rudy et Dallas. Alors d'abord, ils ont des drôles de noms, Rudy et Dallas. Expliquez-nous ça.
Ben, Dallas, personne ne sait comment elle s'appelle. On connaît son surnom, Dallas. Alors on peut penser que ça renvoie au feuilleton célèbre Dallas. Pour moi, ça renvoie à autre chose, à une poétesse qui s'appelait Gilberte Dallas. Et donc le nom secret de Dallas, c'est Gilberte. Et on comprend pourquoi, comme elle a 20 ans et qu'elle est très belle, elle ne veut pas qu'on l'appelle Gilberte. Et Rudy, eh bien, ça porte en son nom, je crois, l'histoire du livre. C'est-à-dire, il y a cette idée de rudesse, de dureté, et puis aussi d'action, quoi. Et Rudy, c'est ça, il a 25 ans, c'est un battant.
Ouais. C'est effectivement l'histoire d'un combat, parce que les employés, les ouvriers, les cadres même de cette entreprise vont se révolter contre le nouvel acquéreur de la dite société et tenter par tous les moyens de la sauver, cette entreprise qui est leur instrument de travail. Mais il ne faut pas s'imaginer que ce soit seulement un roman social. C'est une extraordinaire histoire d'amour.
J'ai voulu que les vivants et les morts mettent en scène, au fond, les conséquences économiques mondiales dans l'histoire d'un couple, presque dans leur lit, dans leur vie la plus intime. Et c'est à ce moment-là, quand ils sont seuls l'un face à l'autre, entre Rudy et Dallas, dans leurs disputes, dans leurs passions, dans leurs élans, dans leurs étreintes, parce qu'ils font l'amour avec passion, et bien d'un seul coup, on comprend là que quelque chose est en train de se briser. Parce qu'à un moment où ils font l'amour, Dallas arrête Rudy et lui dit « non, pas maintenant ». Ils sont en grève, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu idéaliste, peut-être même un peu optimiste dans le long récit que vous nous proposez là ?
Enfin, je crois que tant qu'on est capable de se battre, tant qu'on est capable de se révolter, tant qu'on est capable de refuser le sort qui nous est fait, eh bien on est vivant.
Thank you. La voix off.
Et une polémique.
Faites très attention.
Il s'agit d'un trucage.
C'est une plaisanterie.
Bonsoir, notre invité ce soir est Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur.
Oui, enfin, n'employons pas les grands mots parce que...
Bonsoir à vous et bienvenue.
Oui, bien sûr.
Après la défaite de la droite régionale.
Non, c'est pas... C'est pas comme ça que je le comprends. Au lendemain de ces élections de 2010, nous avons un peu progressé puisque on a gagné. C'est pas la gauche qui a gagné.
J'en ai marre d'être pris pour un con.
Mais sorte feu.
Oui. Que ça soit. Enfin, vous avez. Bon, d'abord, il faut nous faire plaisir. À quoi sert la politique? La politique, ça doit servir à détruire. Donc, j'entends mener la guerre aux électeurs. Et écoutez, moi, c'est très simple. Je suis primaire. Il faut casser les Français. J'ai donc décidé de semer la confusion et de dégommer les autres, remplacer un tel. Moi, la consigne que je donne, c'est vous tapez partout.
Mais ça se concentre, les critiques se concentrent essentiellement sur Nicolas Sarkozy.
Oui, mais c'est précisément Nicolas Sarkozy. Il n'a pas été à la hauteur de la fonction suprême, qui est la fonction présidentielle. Il est à moins de 10%. Et puis là, Nicolas Sarkozy a vocation à être reconduit dans son pays d'origine. Bon. Donc, le président de la République a été interpellé, ce qu'il a perdu, il a perdu.
Mais quand il
c'est,
sort...
Encore une fois, attendez, je termine, c'est pas un principe exceptionnel, c'est Nicolas Sarkozy, qui est venu sur notre territoire sans y être autorisé, sans l'avoir gagné. Donc, Nicolas Sarkozy, qui empoisonne la vie des usagers dans les transports, est invraisemblable et scandaleux. Donc, le président de la République a vocation à être reconduit chez lui. En tout cas, nous allons éradiquer Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que ça me semble justice.
Mais la remontée du Front National, est-ce que c'est pas l'échec de votre politique?
Oui, bien sûr.
La voix off.
Et une polémique.
Cette caricature.
Il s'agit d'un trucage.
Donc on vient d'écouter Polémique, c'est la voix off. C'est la deuxième partie de notre chronique Culture et Révolution.
Voilà, donc Polémique, c'est la voix off, c'est deux DJ, donc... Peut-être que tout le monde connaisse, mais on va quand même en reparler. Donc ils font des mix avec les discours des hommes et des femmes politiques. Et parfois, ils reviennent un peu sur le devant de la scène. Alors c'était le cas notamment en 2006, lorsqu'ils s'étaient proposés pour figurer sur la compilation annuelle Nouveaux Talons des Inrecuptibles.
CQFD.
Voilà, exactement.
Tu mentionnais pas McDonald's.
Et la SACEM, et c'était le problème justement. Donc ils avaient présenté un titre qu'on va essayer d'écouter tout à l'heure, si on retrouve où c'est qu'on l'a rangé, qui s'appelle « Tous les petits enfants » avec Sarkozy comme cible. Donc c'était un coup de cœur immédiat d'une partie de la rédaction qui retient le groupe dans un premier temps du moins, puis patatras. La SACEM, partenaire des Inrock, estime non diffusable le titre de « Polémique, c'est la voix off », raison invoquée, selon le site du Nouvel Observateur. Le montage des propos de Nicolas Sarkozy rappellerait certains crimes commis par les nazis, comme la sélection d'êtres humains ou leur suppression pour inutilité. Alors j'avais envie de vous le refaire écouter, parce que ce n'est pas sans rappeler la susceptibilité du nouveau ministre des expulsions, je veux dire, ministre...
Des expulsions, des déportations, non...
Bref, alors avant, en fait, il s'appelait ministre de l'Intérieur, maintenant c'est un nom plus compliqué, mais vous savez, monsieur Besson... Alors peut-être, ouais, c'est bon. Pour vous donner un petit aperçu, on va s'écouter ce titre, donc Les petits-enfants, quelque peu censurés, donc.
Voix off.
Et polémique.
C'est un montage.
J'ai voulu que pour une fois les Français puissent comprendre. Vous voulez donner vos enfants et vos petits-enfants?
Hein?
Vous donnez. Aucun impôt. On va à la mairie de sa ville. On prend un petit-enfant. On met le nom du donateur et le nom du donataire. C'est tout. On joint ça à sa formule d'impôt.
Ouais.
Et ainsi, on rend service aux petits-enfants.
Hein?
Et on soutient l'emploi. Moi, j'ai un travail à faire et je le ferai. D'ici à la fin de l'année, nous aurons examiné tous les petits-enfants. Ceux qui sont inefficaces seront supprimés et recyclés dans une baisse dépôt pour tout le monde. Tenez-vous bien, il y a 9 millions de petits-enfants. Le Parlement nous a autorisés à recycler tous les petits-enfants. Comme il y aura des dépenses imprévues, il faut que je fasse des réserves de petits-enfants. Vous savez, je vais expliquer aux Français les choses très simplement. J'ai trouvé des petits-enfants très lourds. Il faut les réduire parce qu'ils minent et ils sapent la confiance. Donc il faut à la fois mettre de côté des petits-enfants et en même temps donner un peu d'oxygène parce que la croissance est là. Tout le monde le dit. Donc on va doper des petits-enfants.
Et voilà. Donc c'était donc ce titre qui avait été un peu censuré. Et, mais bon, donc les DJ, ils sont très productifs en plus de faire ces morceaux musicaux qui passent pas souvent en boîte, je sais pas pourquoi. Ils font aussi des mix comme le premier qu'on a écouté avec Hortefeux. Je me suis dit que c'était bien parce que c'est mon côté un peu chauvin en fait. Donc de mettre un montage sur Brice Hortefeux là qui expulse un Hongrois, hein, voilà. C'est un montage qui date du 25 avril. Et en fait, ces montages, il y en a beaucoup parce qu'ils en font au moins un par semaine, qu'ils mettent sur leur site et qui est aussi relayé par le site de Libération. Voilà, et puis alors également, ils font. Donc, ils ont officié, il faut le dire, pour Radio Nova en 2007 et 2008. Et puis parfois, ils font des albums. Donc, je vous conseille La Présidence. Donc, Présidence, parce que c'est la dance, voilà. Élection piège à son. J'arrive pas à parler. Et le dernier, donc celui qui est sorti en décembre 2009, Danse sur la crise. Voilà, ça fait envie.
Oui, ça fait envie, Danse sur la crise.
Et puis, alors, de temps en temps, ils font des émissions à part entière. Donc, ils avaient invité un prof d'histoire d'aider pour une série d'émissions sur l'histoire. Voilà, le thème « La gauche est-elle de gauche ?» des choses comme ça. Et là, ils sortent une nouvelle série. Le principe est le même, interviewer un historien. En l'occurrence, c'est Pierre Royer. C'est un prof, c'était un prof du lycée d'un des deux DJ. Et le thème, c'est les conquis sociaux. Alors, cette émission se récupère elle aussi sur leur site. Et puis, elle sera peut-être diffusée par des radios associatives comme Radio Campus. Et pour vous allécher un petit peu, je vous propose d'écouter les premières minutes de la première série de cette émission.
Vivre, c'est lutter. Lutter, c'est vivre. Il ne s'agit pas de lutter contre le voisin. Faut pas lutter au détriment de l'autre. Mais si l'autre vous bouffe, faut le bouffer. Hein. Faut essayer de pas se laisser trop. Bon.
C'est tout fichu en l'air, quoi. On peut dire que de jour en jour, si on prend bien le journal, il y a toujours un petit acquis qui saute. Tous les jours, il y a quelque chose. Et ça se fait pas sur le plan du Palais Bourbon, ça se fait par décret. On passe ça tout à fait en douce par décret. Alors un décret sur ceci, un décret sur cela. Mais finalement, à la fin du compte, c'est énormément d'acquis qui sont fichus en l'air. Il y a une contre-information. Naturellement, ça prend bien dans les têtes, ça.
Là, il y a vraiment des décisions qui se prennent, qui sont gravissimes pour l'avenir.
Déjà, le travail de nuit, bon, qui était interdit pour les femmes, a été légalisé. C'est des régressions, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a acquis, on est en train de revenir dessus petit à petit. C'est grignoté. Et bientôt, c'est la sécu, à mon avis.
C'est énormément d'acquis qui sont fichus en l'air. C'est même pas 50 ans, je peux dire que c'est presque un siècle d'acquis qui vont à l'arrière, là, carrément.
Mais il n'y a pas que ça, il y a des attaques à toute la société française.
Le politique est au service de l'économie de marché.
C'est bien pour ça qu'on se bat.
Et si on les laisse faire, ces gentils messieurs, à mon avis, vont complètement mettre à bas tous nos acquis, les acquis sociaux, tout le service public. Hein.
Moi-même et nos aïeux ont lutté pour obtenir ce que l'on a jusque maintenant. Bon, ben, il faut toujours lutter, il n'y a pas d'autre solution.
La sécurité sociale et l'accès gratuit à la santé, le système des retraites, l'instruction obligatoire, la semaine de 40 heures, le dimanche sans travail, l'interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans, les congés payés. À l'échelle de l'histoire, ces progrès sociaux sont très récents. Il n'y a encore pas si longtemps, en France, on travaillait 16 heures par jour, 7 jours par semaine, et ce, dès l'enfance. On parle souvent d'acquis sociaux. Et si on parlait plutôt de conquis sociaux, de ces luttes oubliées menées depuis des siècles, comme celles menées par les membres du Conseil national de la Résistance.
Allô ? Allô ? Allô, allô,
à ceux allô. Et à celles qui forment.
Et donc l'émission touche à sa fin, petite émission aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut en retenir, Claire ?
Alors il faut en retenir que même si les capitalistes cherchent à nous diviser pour mieux régner, grâce à l'union, nous combattrons et nous obtiendrons ce qu'on veut. Voilà.
Ça sera l'éruption du volcan social.
Ça sera l'éruption du volcan social.
Et alors moi je dirais, cultivons-nous, continuons à nous cultiver et à
ouvrir nos esprits.
Et puis à revendiquer l'accès à l'art, à la culture et allons au cinéma donc pour le festival du film engagé les 7, 8, 9 mai prochains.
Donc à noter sur vos petits agendas, vos devoirs.
Donc premièrement, allez voir Mordilla jeudi à 14h au Rio donc pour un débat sur le cinéma indépendant et jeudi soir à Mézel pour voir Des vivants et des morts.
Manifester pour la culture aussi le jeudi 6 mai.
Et puis les jours suivants, aller au festival du film engagé, donc c'est pas très cher, c'est prix libre. Et c'est pas loin.
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, d'autres films ?
Donc le 5 mai, à la Baie des Singes, il y a Attaque Projet au service public à vendre.
Et vendredi 7 mai, une autre projection organisée par Attaque, Let's Make Money au cinéma Le Monaco à Thiers.
Donc vous avez un large choix de films qui prêtent au débat, mais c'est pas tout, vous pouvez aussi débattre sans film préalable. Alors par exemple, mardi prochain, j'ai pas noté mais c'est mardi prochain, Pierre Calfa vient à la Maison du Peuple parler des retraites, c'est un meeting organisé par Solidaire et c'est à 20h30.
Le lendemain, Solia remet ça, puisque c'est meeting unitaire sur les retraites. Toute la gauche de Sarkozy sera là, du PS au NPA, de l'UNSA à AFO. C'est à 20h30 et c'est à la salle Le Clancher.
Et puis un peu plus tard, mais on en parle déjà le 3 juin, on aura encore un débat sur les retraites, avec moins de syndicalistes et moins d'hommes politiques carriéristes, mais sûrement autant, voire plus de réflexions et de propositions. C'est Bernard Friot que l'on a interviewé il n'y a pas longtemps par téléphone qui introduira les débats.
Cette émission a été réalisée par Claire et Lise au micro et Antoine aux manettes.
On a entrecoupé nos propos par quelques musiques choisies par nos soins, notamment
Jurassic 5,
Future Sound, Giovanni Mirabassi, Le Temps des Cerises,
Léon Larcher, Lou Diva.
Voilà. Vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog audioblog.arteradio.com/panthère-rouge.
Et nous écrire, en particulier lorsque vous avez des infos chouettes à partager. L'adresse est panthère-rouge tout attaché, 93.3 en chiffres, @gmail.com.
On se retrouve le 16 mai et d'ici là, comme dit l'ami Colin, surtout ne lâchez rien.